Frères et sœurs, les amis, deux très belles lectures que nous offre ce 32e dimanche du temps ordinaire, notamment dans le livre des Rois, la première lecture, et bien évidemment l'Évangile. Une fois de plus, ces deux lectures se nourrissent l'un l'autre, mais surtout l'Évangile est nourri profondément de la première lecture du premier livre des Rois. Alors le contraste est saisissant par rapport à dimanche dernier, souvenez-vous, où le Christ faisait l'éloge de ce scribe qui était bienveillant à son égard et qui cherchait Dieu, visiblement. Eh bien, aujourd'hui, nous sommes dans la situation inverse, puisque le Seigneur, d'entrée de jeu, au premier verset que nous entendons de ce chapitre 12, versets 38 à 44, Jésus disait « Méfiez-vous des scribes ». Alors, dans la bouche de Jésus, le ton, les termes employés, « Méfiez-vous », avant d'être des reproches ou l'émergence possible d'une colère de la part du Christ, il s'agit d'abord d'une attitude prophétique. Ici, c'est quelque chose qui nous est présenté de cette manière-là. Combien de fois nous avons vu les prophètes employer le même langage que le Christ, un langage qui peut paraître violent pour certains. Alors, quelques mots sur les scribes, même si vous savez ça par cœur. Ces derniers jouissaient d'une grande considération au temps de Jésus, et elle était parfaitement justifiée. Je vous rappelle que ce sont les gardiens de la loi et de l'accomplissement strict de la loi. C'était des personnes qui avaient étudié évidemment la loi de Moïse dans les écoles spécialisées du moment. C'était éventuellement des diplômés de la loi, comme on dirait aujourd'hui. Ils avaient le droit de commenter l'écriture et de prêcher. Ils siégeaient au Sanhédrin, c'est-à-dire le tribunal permanent de Jérusalem qui se réunissait au temple deux fois par semaine. Et les meilleurs d'entre eux, parmi ces scribes, étaient nommés docteurs de la loi. Donc, inévitablement, avec tout cela, on suppose très bien que on leur vouait un certain respect, comme le respect qu'on vouait, bien évidemment, pour la loi elle-même. Le livre du Siracide, pour faire une inclusion biblique et sous-tendre ce que je viens de rappeler, fait l'éloge du scribe, celui qui s'applique à réfléchir sur la loi du Très-Haut, qui étudie la sagesse de tous les anciens et consacre ses loisirs aux prophéties. Il étudie le sens caché des proverbes, il passe sa vie parmi les énigmes des paraboles. Donc on voit bien que ces scribes avaient une reconnaissance populaire, mais on peut évidemment, la nature humaine étant ce qu'elle est, comprendre que cette reconnaissance populaire pouvait leur monter à la tête et faire en sorte qu'ils aient un comportement tout à fait détestable. Alors face à ça, nous voyons l'attitude du Christ, une attitude de totale liberté à leur égard. C'est ce que nous avons entendu donc dimanche dernier. Je ne reviens pas sur ce que nous avons dit. Le Christ ayant conclu, vous le savez, la parole de Dieu dimanche dernier en disant à ce scribe bienveillant, « Tu n'es pas loin du royaume de Dieu. » Néanmoins, l'évangile de Marc nous a montré tout au long de son déroulement que le Christ avait une grande méfiance à l'égard des scribes parce que, à l'inverse, les scribes avaient une très grande méfiance à l'égard ou contre Jésus. Il faudrait relire ici des épisodes, j'en cite simplement quelques-uns. Les scribes qui étaient descendus de Jérusalem disaient « Il a Belzéboul en lui, vous savez, c'est le repas chez Lévi, c'est les accusations d'être un suppôt de démons ». ce qui expliquerait le pouvoir de Jésus, etc., etc. Toutes les discussions sur le non-respect des traditions de la part du Christ, notamment lorsque le Seigneur va enfreindre le sabbat. Donc on peut parfaitement imaginer la jalousie grandissante et qui s'est transformée évidemment en haine à l'égard de Jésus et qui a fait naître dans le cœur des scribes le désir de faire mourir le Christ et de l'évacuer de la scène, si je puis dire ces termes. Mais Jésus n'est pas dupe, il est bien conscient de la haine dont il est l'objet, et ce n'est pas cela qu'il leur reproche. Et c'est peut-être là le point le plus important sur le plan spirituel de cet évangile de ce jour. Il y a plus grave que la haine. Aux yeux du Christ, les scribes dévorent les biens des veuves. Et donc par là, le Seigneur va reprocher le pouvoir de ces scribes qui vont profiter de leur fonction pour détrousser les veuves. Ils dévorent les biens des veuves et affectent de prier longuement. Ils seront d'autant plus sévèrement condamnés. Une phrase très dure de la part du Christ, mais tout à fait dans le style prophétique. On sait bien que l'endurcissement du cœur vient tout doucement si l'on n'y prend pas garde. Alors, on voit bien que le Seigneur non seulement fustige le fait que les scribes vont dévorer les biens des veuves, mais en plus de ça, ils vont feindre de prier longuement. Et en cela, on voit bien qu'il y a une hypocrisie. Hein. Et c'est la scène qui va suivre dans la deuxième partie de cet évangile que nous venons d'entendre, cette veuve qui se présente, où le texte nous dit par deux ou trois fois, avec des expressions différentes, que c'est une pauvre veuve, qu'elle est dans l'indigence, qui était malheureusement le cas général à l'époque. Et cette veuve, nous l'avons entendu, s'avance pour déposer deux piécettes. Hein. L'évangile n'en dit pas plus, car le contraste entre la personnalité de cette veuve et la personnalité des scribes est tout à fait saisissant. On comprend très très bien ce qui se passe et pourquoi, surtout, le Seigneur va réagir. La première lecture, je vous l'ai dit tout à l'heure en commençant cette méditation du livre des rois, est d'un éclairage aussi très, très beau et très profond à sa manière pour rentrer, comprendre et saisir l'évangile d'aujourd'hui. Inutile de présenter le personnage d'Élie qui était la grande vedette, le grand prophète de la Bible, et qui est une figure parmi les plus célèbres de l'Ancienne Alliance ou de l'Ancien Testament. Alors rapidement, nous savons qu'Élie arrive sur la scène, si je puis dire, du royaume du Nord, dans un contexte difficile, puisque le roi Achab, épousant la reine Jézabel, fille du roi de Tyr, a inévitablement ouvert son palais aux coutumes de cette dernière, son épouse, qui arrive avec, c'est une reine païenne, avec ses statues, ses coutumes, ses prêtres, etc., etc., toute sa cour, et va construire un temple à Baal dans sa capitale, Samarie. Donc, Achab et Élie, bien évidemment, vont s'affronter. La Bible nous raconte la manière dont ils s'insultent quand ils se rencontrent. Achab traitant Élie de fléau d'Israël et Élie le lui rend bien. Donc, je n'insiste pas, Élie va être obligé de fuir, évidemment, cette compagnie du roi Achab. Et va rejoindre dans le désert la ville de Sarepta, puisque le Seigneur a envoyé une très grande sécheresse et une famine dans ce royaume du Nord, qui fera que c'est le signe de Dieu pour montrer que son hostilité à l'arrivée de la reine Jézabel, introduisant tous ces rites païens. Et là aussi, le prophète Élie va subir cette sécheresse et cette famine. Voilà pourquoi nous avons dans la première lecture ce très beau passage où il rencontre la veuve de Sarepta en lui demandant de lui apporter un morceau de pain. On sait très bien que tout cela a été préparé par le Seigneur, et la fidélité de Dieu par rapport à Élie est de toujours à toujours. Qu'est-ce qui se glisse là-dedans? C'est, une fois de plus, le thème de la confiance. Élie a fait confiance contre vents et marées à Dieu, comme cette veuve qui vient accomplir dans le temple, j'allais dire, son temps de prière, malgré son indigence, malgré sa pauvreté, eh bien, fait totale confiance au Seigneur et à Dieu, même si le contexte est très difficile. Alors, la leçon à tirer sera celle que les disciples vont retenir à leur tour à l'égard de l'Église naissante. Les disciples auront eu comme modèle, si je puis dire, à la fois le prophète Élie, bien sûr, mais plus proche d'eux, le modèle de cette veuve qui donne de son indigence pour le temple, lieu de rencontre avec Dieu. Et on sait combien les apôtres, les disciples du Seigneur auront à donner plus que leur indigence, ils auront à donner leur vie pour la plupart d'entre eux, c'est-à-dire le dépouillement total de leur être pour cette Église naissante, ce qui nous rappelle que bien les fondements de l'Église, même s'ils ne sont pas très nombreux au départ, et s'enracinent dans la confiance totale en Dieu jusqu'au point de donner non seulement la totalité de leurs biens, mais la totalité de leur vie, comme le Christ lui-même l'a fait en tout premier lieu. Amen.